Sophie, 9h à Paris, 8h en temps universel. Et le journal avec Marion Cazanov.
En Géorgie, la police réprime violemment une manifestation pro-européenne, la deuxième consécutive. Le pays s'enfonce dans une crise majeure entre pro-occidentaux et pouvoir pro-russe. La majorité d'Alep désormais aux mains des rebelles selon une ONG. La deuxième ville de Syrie est le théâtre d'intenses combats depuis 3 jours maintenant. La France a fini par réagir à la décision tchadienne. Jeudi, N'Djamena a révoqué les accords militaires avec Paris. Paris dit simplement prendre acte de cette décision. En Italie, des milliers de personnes dans la rue pour protester contre le projet de budget qui risque de fragiliser encore plus les secteurs de la santé et de l'éducation. Et puis on sera en Grèce en fin de journal où, pour la première fois, les habitants de Thessalonique peuvent se déplacer en métro. Il a ouvert ce matin après des années de chantier délicat pour ne pas abîmer le patrimoine du sous-sol de la deuxième ville du pays. Une deuxième nuit de manifestation en Géorgie émaillée de violences, manifestation pro-européenne après la décision du pouvoir pro-russe de suspendre le processus d'adhésion du pays à l'Union européenne jusqu'à 2028. Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de 7 mois de crise dans le pays après l'adoption d'une loi sur les agents de l'étranger, dite loi russe, puis des élections générales remportées par le parti au pouvoir, mais où l'opposition a dénoncé des fraudes. Reportage dans la manifestation de Tbilissi, signé Régis Janté.
Pas de discours, pas de musique comme souvent dans les manifestations en Géorgie. Juste le bruit infernal d'activistes qui, avec des pierres, frappent mécaniquement sur les plaques de métal de protection placées par la police à l'entrée principale du Parlement. Pendant ce temps, c'est probablement 3 fois plus de manifestants que la veille qui se sont réunis sur l'avenue Roustavéli. Une foule déterminée, munie de masques et de lunettes, de piscines souvent, pour se protéger des gaz lacrymogènes. La peur est là, mais on a décidé de la surmonter, comme Gwansa, étudiante en médecine.
Mon gouvernement est en train de me voler mon avenir, et c'est pourquoi je suis là ce soir. Ça m'inquiète que mon avenir puisse ne pas être européen. Ça risque d'être violent, je le sais. Mais je suis quasiment toujours ici lorsqu'il y a une manif.
Gwansa avait raison. À 23h pétante, les forces de l'ordre ont commencé à bouger comme la veille. À nouveau, des barricades sont érigées, des poubelles incendiées, la cacophonie des cris, insultes, sirènes et explosions de toutes sortes, tandis que les drapeaux de la Géorgie et de l'Europe flottent dans une lumière bleu-grise et l'air saturé de fumée. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
La Russie, qui a donc renforcé ces dernières années son influence dans le Caucase, elle est aussi engagée en ce moment en Syrie auprès des forces de Bachar al-Assad pour repousser des groupes rebelles. Moscou a mené des raids aériens sur Alep pour la première fois depuis 2016, selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG signale également que ces rebelles emmenés par les djihadistes du HTC contrôlent désormais la majorité d'Alep, deuxième ville du pays, et certains groupes impliqués dans cette offensive sont proche de la Turquie voisine, la Turquie qui semble soutenir tacitement l'offensive. À Ankara, à Nandloer.
La Turquie n'est pas directement impliquée dans l'offensive en cours, mais elle ne semble pas s'y être opposée. Elle qui avait dénoncé les attaques récentes du régime syrien et de son allié russe sur la province d'Idleb. Des attaques décrites comme autant de violations des accords conclus entre la Turquie, la Russie et l'Iran dans le cadre du processus dit d'Astana. Même si elles ne sont pas majoritaires, certaines formations de rebelles syriens proches d'Ankara participent à l'offensive sur Alep, aux côtés du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham. Dans sa première réaction officielle, la Turquie s'inquiète néanmoins de l'escalade en cours à ses frontières. Toute instabilité dans la région d'Idleb risque en effet de pousser vers son territoire des centaines de milliers de réfugiés que la Turquie ne veut pas accueillir. Ankara semble également considérer l'offensive en cours, qui met en lumière les faiblesses du régime de Damas, comme un moyen de pression sur Bachar el-Assad. Le président turc Erdogan cherche depuis 2 ans à négocier une normalisation des relations turco-syriennes, mais refuse d'envisager le retrait des troupes turques du nord de la Syrie, une condition du régime syrien. Anandloer, Ankara, RFI.
Et ces combats sont les plus violents dans la région depuis 2020. Toujours selon l'ONG OSDH, ils ont fait au moins 277 morts. La France a finalement réagi 24 heures après l'annonce par le Tchad de la fin de ses accords de coopération militaire avec Paris. Dans un court communiqué publié hier soir, le ministère français des Affaires étrangères indique simplement prendre acte de la décision tchadienne. Cette réaction était très attendue. Alexandra Branjon, tant l'annonce du Tchad a pris tout le monde par surprise hier soir.
Le Quai d'Orsay rappelle que la France a entamé depuis plusieurs années une réflexion et un dialogue avec ses partenaires sur la reconfiguration de ses dispositifs militaires en Afrique. Dans ce cadre, poursuit le texte, les autorités tchadiennes ont souhaité voir évoluer leur partenariat de sécurité et défense. La France en prend acte et entend poursuivre le dialogue avec N'Djamena, conclut la communication officielle du gouvernement français. Cette réaction au ton très diplomatique était très attendue, tant la rupture des accords de défense annoncés par le Tchad tard jeudi soir, peu après le départ de N'Djamena, du chef de la diplomatie française, a pris tout le monde par surprise, y compris, selon de bonnes sources, jusqu'au plus haut sommet de l'État, où l'on s'interroge sur les motivations de cette décision tchadienne. Y a-t-il eu un élément déclencheur en particulier? Le rapport Bockel sur les projets de réduction des effectifs militaires français a-t-il été mal perçu? Le Tchad a-t-il d'autres partenaires en vue? Autant de questions auxquelles les officiels français cherchent des réponses. Alexandra Branjon, Addis Abeba, RFI.
Addis Abeba, où le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot poursuit son séjour sur le continent. Il a rencontré hier le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, pour évoquer la réforme des Nations Unies, de même que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. La France et son gouvernement toujours sur la sellette, sur fond de débat sur le budget. Le premier ministre Michel Barnier a fait des concessions en fin de semaine pour apaiser l'extrême droite, notamment en prévoyant une baisse de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers, mais ce n'est pas suffisant pour Marine Le Pen du Rassemblement National qui n'exclut pas de voter une motion de censure. Le budget provoque aussi de vives réactions en Italie. Le projet 2025 suscite des inquiétudes. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier contre le texte qui prévoit des coupes dans l'éducation et la santé. Emiliano Turco est infirmier. Il témoigne de la situation des patients, de la sienne et de celle de ses collègues dans les hôpitaux publics.
Dans les services d'urgence, les listes d'attente sont infinies. Les patients peuvent attendre plusieurs jours. Et cela en raison de la mauvaise gestion de la santé publique qui s'aggrave depuis des années avec la réduction des lits, un personnel en nombre insuffisant. Il manque 30 000 médecins et il manque 60 000 infirmiers en Italie. Nous travaillons énormément pour un salaire qui s'élève seulement à environ 1 600 euros net par mois. Nous avons été considérés comme des héros durant la pandémie de Covid. Cependant, dans son nouveau projet budgétaire, le gouvernement Meloni prévoit d'augmenter notre salaire de seulement 12 euros brut par mois. Désormais, la tendance est donc de partir à l'étranger, alors que notre ministre de la Santé a décidé d'embaucher 10 000 infirmiers indiens en Italie.
Emiliano Turco, infirmier au micro d'Anne Lenir à Rome. Les Islandais votent aujourd'hui pour des législatives anticipées. La coalition au pouvoir entre la gauche et la droite a éclaté, ce qui a conduit le gouvernement à appeler ces élections. Les bureaux de vote ouvrent dans moins d'une heure. La deuxième ville de Grèce, elle, s'offre son premier métro. Il aura fallu 18 ans de travaux à Thessalonique. Les retards se sont accumulés car le sous-sol de la ville est très riche. Il ne fallait pas détruire ce patrimoine historique qui est d'ailleurs désormais visible dans les stations de ce nouveau métro. Reportage de Joël Brunner.
Des couches hellénistiques, romaines, byzantines, pour voir le jour, le métro a dû se frayer un chemin à travers le sous-sol d'une ville riche de 2300 ans d'histoire. Natalia Poulou, professeure d'archéologie byzantine à l'université Aristote de Thessalonique.
C'était évident qu'en fouillant, on allait trouver des antiquités dans le sous-sol de la ville. On a pris soin de ces antiquités. Dans la station Venizelou, on n'a pas perdu même pas un centimètre du niveau et de l'ampleur de ces constructions. C'est très impressionnant.
Pour les usagers, le voyage dans l'espace urbain se double ainsi d'un voyage dans le temps. Spiros Pengas, ancien maire adjoint.
C'est un moment historique, l'arrivée du métro ici à Thessalonique. On l'a attendu pendant tellement longtemps. Durant 18 ans, les travaux ont perturbé la ville, les commerçants, la circulation. Maintenant, si tout va bien, nous attendons une extension rapide du réseau de ce métro.
Pour désengorger le centre-ville d'un trafic automobile intense, la prochaine étape, c'est, sauf nouveau retard, pour 2025, avec une deuxième ligne de métro et 5 nouvelles stations. Joël Brunner, Thessalonique, RFI.
RFI, bientôt 9h10, à Paris 8h10, en temps universel.